Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité d'étudier sa parole. Nous sommes dans la série Béréen l'explorateur et dans le livre des psaumes. Et nous avions fait le psaume 97 jusqu'au psaume 100 la dernière fois. Aujourd'hui, nous entamons le psaume 101. Nous attaquons le psaume 101 de David.
Psaume 101 de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité.
Amen. Voilà, lorsque nous lisons ce psaume, mis à part les deux premiers versets, qui montrent clairement qu'il s'agit d'un homme, je chanterai la bonté et la justice. La bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Donc, à part ces deux premiers versets, ces deux premières phrases, nous pouvons, si on n'avait pas tout lu, croire qu'il s'agit de Dieu qui parle. Voilà, donc on sent la vérité divine, l'idéal divin dans tout le temps. Toute la partie du verset 2 jusqu'au verset 8, on sent l'idéal divin, ce que Dieu est et ce qu'il attend des humains. Voilà, Dieu, il est écrit que ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut pas regarder le mal. Voilà, là, il dit au verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Je hais la conduite des pécheurs. Dieu, c'est pareil. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Voilà, c'est la même chose avec Dieu. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Voilà, on a l'impression que c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? On peut comprendre de cela que dans le juste, il y a le même idéal que Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu attend des hommes, c'est que Dieu aime, c'est dans la conscience du juste, et pas seulement dans sa conscience, mais le juste l'approuve. En quelque sorte, même si le juste n'est pas parfait, si tu lui demandes quel monde tu veux, il va présenter le monde de Dieu. Le juste, c'est ça la différence entre le juste et le méchant, c'est que le juste veut du monde de Dieu, un monde sans péché, un monde sans méchanceté, un monde rempli d'amour, un monde rempli de droiture. Au fond de lui, c'est ce que veut le juste. Le méchant, comme le juste, est au courant de cet idéal-là. L'idéal divin se trouve dans tout homme. Méchant ou juste, chacun sait au fond de lui ce que Dieu veut vraiment. Chacun sait. La différence maintenant entre le juste et le méchant, c'est que le juste, lui, non seulement il sait ce que Dieu attend, ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, le juste le choisit également. Il veut de ça. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il veut du monde de Dieu. Il veut de la vérité divine. Il veut de la loi divine. Seulement, parfois, sa chair ne suit pas, mais lui, au fond de lui, c'est ça qu'il veut. Alors que le méchant est au courant de l'idéal divin. Il le sait. Il le sait, mais c'est un monde qui ne lui plaît pas. Un monde où tous les humains sont égaux devant le salut, devant Dieu. Un monde où l'amour doit prédominer, ça ne plaît pas trop au méchant. Le méchant ne veut pas un monde où lui ne sera pas le premier. Il ne veut pas de ça. Il veut dépasser tout le monde. En argent, en vêtements, en ceci, en cela, il veut dépasser. Le méchant est conscient de ce que Dieu attend, des attentes de Dieu, de l'idéal divin. Il est conscient de ça, mais il n'aime pas ça. Le juste est conscient de ça et il aime ça. Nous allons retrouver ça dans Romains 2. On va lire dans Romains 2, je crois 13 à 16. On nous montre que ce que David est en train d'exprimer là, en réalité, tout homme le sait. Tout homme a l'idéal divin dans sa conscience. La différence vient seulement dans la suite. C'est que le juste, lui, choisit cet idéal divin, alors que le méchant n'en veut pas. Il trouve que c'est pas bon. C'est pas son monde à lui. Voilà. Nous allons lire Romains 2, 13 à 16.
Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.
Voilà. C'est fini, hein? Verset 16.
C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
Voilà. Un jour, tout cela paraîtra. Ça paraîtra que le méchant est au courant de la vérité. Il le sait. Mais c'est seulement, il n'aime pas ça. Lui, il veut un monde, vous savez, où, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. C'est ça le monde du méchant. Il veut un monde obscur où on peut se faire des coups bas. Il y a des gens qui aiment ça. Ils ne veulent pas un monde de paix, de tranquillité. Il y en a qui préfèrent un monde de guerre. Qui va faire que ils vont faire des exploits. Vous savez, il y a des gens, très tôt, ils tuent les chats, ils tuent les chiens dans le quartier. Il y a des gens comme ça. Il aime tuer. Il n'aime pas un monde juste. C'est ça le méchant. Mais il est au courant. On nous dit qu'il est au courant. Donc ce qu'on est en train de lire là, c'est l'affirmation du choix de David. Il affirme qu'il aime le monde de Dieu. Un monde où il n'y a rien de mauvais. C'est ça que lui il veut. Un monde où il n'y a pas de fraude. C'est ça que lui il veut. Mais que les gens sachent que c'est le monde de Dieu, tout le monde le sait. C'est pourquoi même le méchant, il se retient parfois de faire le mal à un certain niveau. Tout le monde n'est pas méchant au même niveau. Mais on voit bien, comme dit le Romains 2, que la conscience fonctionne encore chez le méchant malgré tout, puisque parfois, il s'accuse lui-même. Parfois, il se dit lui-même qu'il est mauvais, il est perdu. Comme on dit de Voltaire, il a vécu une agonie. Vous savez, Voltaire, ça fait partie des ennemis de Dieu, des gens qui, pendant toute sa vie, a voulu prouver que Dieu n'existait pas, a passé son temps à se moquer de Dieu, à railler Dieu, Voltaire. Voilà, il faisait passer les gens qui croyaient comme des gens bêtes. Et il était célèbre comme écrivain Voltaire. Mais quand il a attrapé une maladie qui faisait couler son sang, et qu'il commençait à mourir, la mort n'est pas venue tout de suite. Hein. Il a eu une longue agonie. Et vous savez, l'infirmière qui s'est occupée de lui pendant sa longue agonie, elle a dit elle préférerait perdre tout l'or du monde entier pour si on lui proposait de revivre ce qu'elle a vécu avec Voltaire. Donc si même on lui proposait de lui payer avec l'or, tout l'or du monde entier, elle refuserait. Tellement c'était désagréable à voir. Le monsieur souffrait sérieusement. Une longue agonie. Et dans sa longue agonie, parfois, il disait, « Dieu, mais viens m'aider. Où tu es? Pourquoi tu me laisses comme ça ?» Et après, quelques moments, quelques instants, il disait, « D'ailleurs, tu n'existes pas. » Il injuriait Dieu. Voilà. Donc, malgré sa haute méchanceté, il y avait des moments où il reconnaissait que Dieu existait. Mais comme c'est le monde de Dieu, il n'aime pas. Il n'aime pas Dieu tel que Dieu est. Il y en a qui n'aiment pas Dieu, puisque Dieu est bon, Dieu est vrai, Dieu est pur. Ils n'aiment pas ça. Et donc, ils se ressaisissaient pour blasphémer à nouveau contre Dieu. Donc, ils faisaient comme ça des va-et-vient. Tantôt, ils crient à l'aide. Ils crient et demandent l'aide de Dieu. Tantôt, ils le maudissaient. Donc, même le méchant a conscience de l'existence de Dieu. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Il a une conscience. Mais il ne veut pas de ce monde-là, de Dieu. Il n'en veut pas. Et il va tout faire pour le combattre. C'est ce qu'a été le cas de, c'est ce qu'a été Voltaire. Il a tout fait pour combattre Dieu. Et on nous dit que le jour du jugement dernier, tout cela va ressortir. C'est-à-dire, à chaque fois que ta conscience te parlait, tout ça va ressortir. Dieu va utiliser ça pour le jugement. Et donc, ne nous méprenons pas là-dessus. Les gens savent. Ce que David est en train de donner là, tout le monde le sait à peu près. Tout le monde sait à peu près que Dieu existe. Tout le monde sait à peu près que Dieu est parfait, il est droit. Il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas le vol. Tout le monde le sait. Parce que vous savez, aucun d'entre nous ne sera content de subir ces choses-là. Qu'on lui mente, qu'on lui vole des choses. Personne ne sera heureuse de cela. Donc c'est la preuve que ce n'est pas de bonnes choses. C'est la preuve. Mais maintenant, il y a un choix à faire. Aimes-tu ce monde-là où le mensonge est considéré comme mauvais? Aimes-tu le monde où les ténèbres, ce n'est pas quelque chose de bon? Ou préfères-tu le monde des ténèbres, comme ça tu peux faire des choses en cachette? Ou préfères-tu le monde de la magie, comme ça tu peux augmenter tes performances dans le sport ou dans la musique rapidement comme une sorte de dopage? Voilà, tu dois choisir. Ou tu préfères le monde de la magie qui va t'enrichir rapidement au lieu de choisir le monde de la patience de Dieu. Il y a un choix à faire, mais nous savons tous ce qui est bien. Tout le monde sait. Et David est en train de montrer par ce texte que non seulement il sait qui est Dieu, qu'est-ce qui est bien, mais il choisit également cela. C'est ça qui fera que certains iront au ciel, d'autres pas. Vous savez, si on disait tout simplement, le ciel est ouvert, qui va refuser? Personne. Mais beaucoup arrivés au ciel diront, c'est pas le monde que j'aime. Le monde d'amour, de paix, de joie, où on adore le Dieu véritable. Il y a des gens qui sont mauvais. Ils veulent le monde de l'obscurité, des ténèbres, des coups bas, des méchancetés. Ces gens-là, leur place, c'est dans le feu éternel. Leur place, c'est en enfer. C'est ça la réalité. Dieu ne va pas imposer aux gens l'enfer. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont choisi le mal. C'est leur place. Voilà, bien-aimé, un appel de Dieu. quel monde tu préfères? Le monde tel que David le décrit ou bien le monde des ténèbres? C'est le choix à faire. On le voit même. Beaucoup se disent, je suis devenu chrétien. Mais il devient chrétien, mais ses amis restent des amis du monde. C'est son temps, c'est avec les gens du monde. Il continue encore les fêtes du monde. Vous voyez bien que ce genre de personnes ont choisi le christianisme comme un ticket pour aller au ciel. Mais ils n'ont pas choisi ce que David est en train de décrire là. Verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Voilà le désir de Dieu et le désir de tout juste. Comment ne pas nous étonner de voir finalement beaucoup de ces gens qui se convertissent replonger dans le monde parce qu'ils ont pris un ticket pour le ciel, mais ils n'ont pas pris la nature du ciel. Ils n'ont pas pris la vie de Dieu, ce que Dieu aime, les préférences de Dieu. Ils n'ont pas pris ça. Ils ont pensé à eux-mêmes, j'aimerais bien aller au ciel. Mais oui, mais le ciel, c'est un monde de bons. Un monde de gens qui aiment. Un monde de gens qui ne sont pas jaloux. Donc tu devrais adopter tout cela. Et vous voyez que, naturellement, la personne qui s'est vraiment convertie va abandonner certains milieux, certains endroits, certaines habitudes, parce que ça ne correspond pas au monde qu'il a choisi. Tout simplement. Sans même connaître beaucoup de choses, il sait quel monde il a choisi. C'est très important vraiment d'expliquer ça aux uns aux autres. Se convertir, ce n'est pas s'arracher un billet pour le ciel. C'est choisir un monde. C'est choisir un mode de vie. C'est choisir le Dieu vivant tel qu'il est, bon, amour, parfait, sans aucun péché, sans ténèbres. Voilà, c'est tout ça qu'on choisit. Voilà, c'est pas juste recevoir un ticket pour le ciel. Nous passons au psaume 102. Oui, le psaume 102. Ah, il y a question, ok.
En fait, je voulais savoir, là, comme tu viens de dire, que les chrétiens, en fait, quand ils deviennent chrétiens, et puis ils côtoient les gens du monde, mais je me dis, les personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, qui va vers eux dans ce cas? Après, je n'encourage pas à ce que les gens soient amis avec des gens du monde, hein, mais je me dis, qui va vers ces personnes pour les ramener à la conversion si, on va dire, entre chrétiens, on reste qu'ensemble?
Non, on n'a pas dit que les chrétiens vont rester qu'entre eux. Ils vont obligatoirement avoir un contact avec les gens du monde par le travail, par tout ce qu'ils vont faire dans la vie sur terre. Il y aura naturellement un contact par la famille. Il va y avoir un contact naturel. Mais un choix de vie, non. Ah, oui. Donc le chrétien ne peut pas choisir d'avoir les amis du monde, de passer du temps tout le temps avec eux. Il ne peut pas choisir ça. Mais naturellement, il va y avoir un contact avec les gens du monde par tout ce qu'on fait. Et à partir de là, par le voisinage, on est en contact avec les gens du monde. On ne fuit pas ce contact-là. Ah, mais d'accord. On ne cherche pas l'amitié, la vie de tous les jours avec les gens du monde parce que ça va nous faire glisser encore. Et tout simplement, on va être témoin de tout ce que David est en train de réprouver là. On va être témoin des coups bas, témoin de l'adultère, témoin de beaucoup de choses et quelque part participant puisqu'on est dans le milieu. Voilà. Le psaume 102.
Psaume 102. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est pour moi que jure mes et c'est par moi pardon que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel. Et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi.
Amen. Voilà la prière du malheureux. On voit une fois de plus quelqu'un crier comme un malheureux dans une grande... très grande souffrance. C'est pour nous rappeler que les chrétiens aussi, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, peuvent passer par des terribles souffrances, des terribles tribulations. Ça existe. Il faut qu'on soit conscient de ça et ne pas entrer dans la rébellion. Parce que souvent, quand tout ça arrive, les gens ont la tentation d'entrer en rébellion vis-à-vis de Dieu. Alors David, la personne qui a écrit nous dit que cela soit écrit pour la génération à venir. Il faut que nous puissions lire tout ce qu'on lit là pour comprendre que ça peut nous arriver aussi. Si ça arrive, c'est arrivé au juste d'autrefois. Nous, aujourd'hui, quand ça nous arrive, on peut se dire, bon, je ne suis pas le premier, le Seigneur... a déjà permis ça pour des gens qui m'ont précédé. Voilà, ça nous calme, ça nous donne la consolation. Mais quand on voit la description des souffrances du malheureux, on se dit c'est important, c'est fort. Et chaque jour, mes ennemis m'outragent. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sans un toit, sur un toit. Ça peut aller très loin, les souffrances d'un enfant de Dieu. Mais souvent, même les autres enfants de Dieu, lorsqu'ils voient un enfant de Dieu souffrir, ils critiquent. C'est pas bon. On ne connaît pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun. Il faut pas se précipiter à dire, mais si telle chose arrive à un chrétien, certainement il a péché, certainement il y a ceci. Non, on ne sait pas toujours. Parce que là, la personne qui raconte, ce n'est pas qu'elle a péché, elle-même, d'ailleurs, elle ne comprend pas, et elle attribue même ses souffrances à Dieu. On l'a dit précédemment, que ce qui est merveilleux dans les psaumes, c'est que les gens qui ont écrit étaient tellement certains de leur Dieu qu'ils ne voyaient pas le diable leur faire du mal au-delà de Dieu. Voilà. Ils étaient tellement sûrs de leur Dieu qu'ils considéraient que leur malheur ne pouvait venir que de Dieu en quelque sorte, même si c'est le diable qui frappait, même si les ennemis agissaient, c'est quelque part parce que Dieu les aurait abandonnés. Parce que si Dieu est avec eux, rien de mal ne peut les atteindre. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Quelle foi! ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le diable qui est mis en avant, ses serviteurs qui sont mis en avant pour expliquer les souffrances des enfants de Dieu. Alors que eux, à l'époque, ils considéraient que le diable est tellement petit que s'il peut agir sur eux, forcément, c'est Dieu qui a autorisé. Et donc, dans leur prière, ils visaient Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Et c'est ce qu'il fait encore là. Il dit au verset 11, « À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. » Voilà. Il attribue cela à Dieu. Ça, c'est un état d'assurance dans le Seigneur, de conscience que Dieu gère tout. Il est au contrôle. Donc, je ne veux pas passer mon temps à blâmer les humains, à blâmer les démons. Je vois, je règle mes problèmes avec Dieu. Ça, c'est. J'aime beaucoup leur attitude. Et à un moment donné, il se ressaisit au verset 13. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Ce passage nous rappelle que Dieu agira toujours en faveur de ses élus. Parce que l'attente peut être longue. Hein? L'attente peut être longue. Mais ce passage est là pour nous dire, le temps est fixé. Il y a un passage aussi qui dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Le temps est fixé pour chaque action, chaque saison des ténèbres. Le temps est fixé. Comprenons cela. Dieu finira par se lever. Et bien, il y a une maman qui a prié pour son fils pendant 14 ans. 14 ans. C'était quelqu'un de la mafia brésilienne pendant 14 ans. Et la 14e année, eh ben, on a tiré sur son fils dans ces contentieux mafieux. Et il était censé être mort. C'est là que l'action de Dieu a commencé. Guéri miraculeusement, conversion à l'hôpital. Et ainsi de suite, serviteur de Dieu. Quelqu'un qui était un très grand bandit. Mais sa maman a prié pendant 14 ans. Ça peut prendre du temps. On ne sait pas expliquer tout cela. Mais on a quelques pistes. L'une des pistes, c'est que Dieu peut se servir de ta détresse pour te mettre dans un état favorable à l'exaucement de la détresse des autres. C'est-à-dire que à cause de ta détresse, toi, tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu. Maintenant, pendant que tu cherches la face de Dieu, tu ne te focalises pas que sur ton problème, tu commences à prier pour autre chose aussi. Or, c'est ce que Dieu attendait pour agir. Voilà. Il peut utiliser la détresse d'une personne pour ouvrir des portes spirituelles pour d'autres. Donc, ça peut servir à cela. Mais toujours est-il que le temps de la séquence des forces des ténèbres est fixé. Soyons patients. Un jour, on sera dans la joie, comme le psaume 126 nous dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions tous dans la joie. C'était comme un rêve. Il leur avait fixé 70 ans. Ça paraît très loin, très long, 70 ans, mais c'est arrivé. Ça finit par arriver. Et ça devient comme un rêve. Notre bénédiction, l'exaucement du Seigneur par rapport à toutes nos prières, ça finira par arriver. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Il faut qu'on continue à prier, il faut qu'on continue à croire. Et ces études bibliques sont là pour nous soutenir dans cette attente. On nous dit aujourd'hui, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. C'est arrivé le temps. Donc ça nous stimule à continuer, à lutter, à prier. On sait que la gloire de Dieu va se manifester. Et l'écrivain de psaume dit, nous aimons ton œuvre, Seigneur. C'est ce que les uns et les autres peuvent dire à Dieu. Mais Dieu, ce que moi je veux, c'est ton monde. Ce que moi je veux, c'est la conversion des âmes. Je ne te demande pas l'argent. Je ne te demande pas le succès. Moi, je te demande la sainteté. Je te demande la vérité au milieu des chrétiens. Je te demande les actes des apôtres. Après tout, c'est ça que toi aussi tu aimes. Voilà, ils disent, mais ce sont car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils aiment Jérusalem. C'est ta ville. Nous sommes en phase. Pourquoi ne nous exaucerais pas-tu? Nous sommes en phase. Et au verset 18, il dit, « Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Donc n'ayons pas honte de paraître bête, misérable. » Tu ne viens pas avec une liste de reproches à Dieu. Tu viens comme un mendiant. J'ai soif, Seigneur, de ta gloire. J'ai soif de l'exaucement. Tu n'écoutes pas les voix du diable qui te diront, mais ça fait longtemps que tu pries, ça fait, regarde même telle chose, regarde. Tu n'écoutes pas ça, tu ne regardes qu'à Dieu, tu fermes les yeux. Tu dis, Seigneur, je te cherche. Je sais que tu existes, je sais que tu es fidèle. Voilà. Et c'est là qu'il commence à citer toute la grandeur de Dieu pour dire au verset 27, même le verset 26-27, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, mais eux ils périront, mais toi tu subsisteras. Tu es plus grand que les cieux, plus grand que l'univers. Alors comment ne pas te faire confiance? Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Effectivement, ce qui dit, ce qui est écrit là, c'est ce qui est écrit dans d'autres textes. On nous dit que, je suis même étonné de le voir là, parce que le texte qui parle de comment Dieu va changer les choses, mais il parle aussi comme si ça sera comme une sorte de nappe que Dieu va enlever. L'univers est comme une nappe pour Dieu. Il va enlever une nappe, cette nappe, il va mettre une autre nappe. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voilà. Qui est notre Dieu. Il est éternel. On peut se confier en lui. Nos mauvaises situations ont une durée limitée. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Amen. Passons au psaume 103. Oui, question.
Question internet. Les épreuves, les souffrances, entre parenthèses, travail, famille, injustice, qui ne sont pas en lien avec notre foi, sont-elles inutiles?
Comment ça ne peut pas être en lien avec notre foi? C'est forcément en lien avec notre foi, parce qu'elles font mal, quelque chose qui fait mal, ça nous pousse à nous plaindre, à murmurer contre Dieu. C'est toujours en rapport avec notre foi. Il n'y a pas d'inutile. Voilà. Nous continuons. Le psaume 103, oui.
Il y a d'autres questions dans la salle.
Oui, oui.
Pasteur, un chrétien, donc, avec la description comme ça, peut avoir une dépression?
Non, ça, ce n'est pas une dépression, c'est une souffrance. Parce que, après, dépression aussi, c'est un mot technique, hein, avec des éléments. En médecine, quand on dit quelqu'un dans la dépression, il y a un tableau clinique qui est là. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pourquoi j'ai dit moi. Hein, je ne suis pas d'accord que des chrétiens tombent dans la dépression, donc au point qu'ils ne peuvent plus vivre en communauté, ni exercer leur travail de chrétien. Je me dis que ça veut dire quelque part qu'ils ne se sont pas déchargés sur le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je dis tout simplement, c'est la preuve qu'ils ne se sont pas déchargés sur le Seigneur. Ils ont fait les choses par eux-mêmes. Le Seigneur a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et je vous donnerai le repos. J'apprends qu'il y a des pasteurs qui sont, ça s'appelle quoi, quelque chose avec burn dedans? Burn out, voilà, tout ça. je me dis non, c'est que forcément, ils n'ont pas donné au Seigneur le fardeau, ils ont tout pris et ils arrêtent de servir Dieu. Moi, je ne pense pas qu'un combattant doit s'arrêter. Le combattant doit mourir sur le champ de bataille. Voilà, je pense que maintenant, je dis, on est des humains, ça peut arriver, mais ça montre qu'il y a eu des failles par rapport à Matthieu 11, 28, 30, donc déposer le fardeau auprès du Seigneur.
D'accord.
Oui.
De quelle façon il faut interpréter le fait de, durant l'épreuve, de rester silencieux devant le Seigneur, sans parler du fait que, bon, il ne faut pas murmurer, ça c'est d'accord, mais le fait de rester en attente, dans le silence, ça veut dire qu'on ne doit plus... enfin voilà, c'est ma question plutôt, je ne vais pas dire... Voilà, rester silencieux, ça veut dire quoi?
On n'a pas dit parce que de rester forcément silencieux, puisque là, le psaume même qu'on lit, c'est un psaume de lamentation, la personne se lamente. Mais dans la lamentation, que ça soit comme un cri de douleur qu'on est en train d'exprimer, pas un jugement sur Dieu. C'est pourquoi je loue, enfin, je bénis Dieu pour les psaumes. Les psaumes sont à chaque fois des lamentations, des cris de douleur qui sont exprimés, mais il n'y a aucun jugement sur Dieu. Voilà, puisque ça finit toujours par reconnaître que Dieu est grand et tout puissant, mais entre-temps, on pleure sa situation, on crie à Dieu par rapport à sa situation. Voilà. Maintenant, ceux qui ont la maturité de pouvoir se taire en faisant confiance en Dieu, quel conseil donner? Il faut que ça soit un silence de foi, un silence de paix, pas un silence stoïque. C'est-à-dire que je ne suis pas bien, je suis en colère, je me tais parce que, bon, je veux me maîtriser. Voilà, c'est un silence dû à ses propres forces. Je me maîtrise, je ne montre pas que je souffre par ses propres forces, comme ça, c'est la doctrine du stoïcisme. Non, mais il faut que ça soit un silence d'assurance, de joie venant de Dieu lui-même, parce qu'on a mis foi en lui. Voilà, c'est ça que ça doit être un silence comme ça. Autrement, si on n'a pas cette paix-là, cette foi-là, mais il faut crier de douleur. Ah, j'ai mal, il faut le dire. Voilà, si on n'arrive plus à se retenir, il faut le dire à Dieu. J'ai mal, je souffre, aide-moi. C'est comme le psaume qu'on est en train de lire, c'est la prière du malheureux. Donc il faut le faire. Maintenant, si on a la paix, la force de continuer à souffrir sans dire mot, mais que ce soit dans la paix et dans la joie. Voilà, pas un silence en colère. Voilà. C'est bon? Psaume 103. C'est un psaume qu'on connaît, hein, le psaume 103, on en parle souvent, surtout le premier verset. Mais bon, on va dire, voilà, c'est les bienfaits de Dieu sont cités ici, c'est merveilleux. Ouais.
Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
Amen. Voilà, je veux m'arrêter un instant ici pour dire c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est vraiment un grand pas de foi que de dire cela, vu l'époque. Nous vivons une époque où nous avons vu le Seigneur guérir tant de personnes. On a vu les apôtres le faire et on a connu des réveils. Voilà. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Ça veut dire que les gens qui écrivent là, c'est des gens qui sont sûrs de Dieu. Ils ont déjà expérimenté des guérisons. Ils ont vu la gloire de Dieu. C'est vu l'époque. Donc nous devons croire d'autant plus maintenant que nous avons eu le Seigneur qui est passé, le Seigneur dont il est dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, nous devons croire à la guérison divine. Nous devons avoir le courage de prier pour chaque maladie que nous en soyons guéris, sans complexe. Voilà. Dieu choisira comment il fera, mais nous, on doit lui en parler. Seigneur, je vais être guéri de ceci, de cela. Il ne faut pas, puisque la médecine propose des palliatifs, se laisser emprisonner par le système médical. Il faut toujours demander la guérison totale auprès du Seigneur, jusqu'à la mort. Tant que, du moment que Jésus a été crucifié pour cela, il faut réclamer la guérison. On continue, verset 4.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Je m'arrête aussi un peu sur ce fait-là. C'est quelque chose d'important de réaliser que Dieu ne pardonne pas les gens parce qu'ils sont bons. Voilà, c'est très très important de comprendre que il nous sauve à cause de sa miséricorde. C'est pas parce que tu es bon qu'il te pardonne. Il te pardonne parce que tu as réclamé le pardon à cause de sa miséricorde à lui. Parce que vous savez, beaucoup de gens attendent de devenir bons pour demander le pardon pour les choses. Non. Pendant que tu es encore, tu te sens mauvais, il faut rejeter le mal en demandant pardon. Tu dis, Seigneur, comme David a dit, comme on a vu dans le psaume 102, dans le psaume 101, je ne veux pas du monde du péché. Je viens de commettre le péché, mais je ne veux pas de ce monde-là. Je suis tombé, mais je n'en veux pas. Je te demande pardon. Voilà. Il ne faut pas attendre que tu n'aies plus envie pour commencer à demander pardon. Ça, c'est chercher la justice par soi-même. Il faut rejeter le mal. Même si on se sent encore faible dans ce mal-là, il faut le rejeter en disant « je n'en veux pas ». Seigneur, pardonne-moi. Et il est écrit, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc, quand on demande pardon comme ça, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ayons aussi foi au pardon, dans le pardon de Dieu, c'est très important. Nous continuons.
Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus.
Voilà, le Seigneur est conscient de notre faiblesse. Parce que beaucoup ont une attitude de colère vis-à-vis de Dieu quand ils se rendent compte de leur péché. Et ils font comme si, bon, Dieu est loin dans sa pureté, dans sa perfection, et il ne compatit pas à notre situation d'homme poussière, comme il est écrit là, d'homme faible. Voilà, il sait que nous sommes poussière. Nous avons été corrompus par héritage adamique. Il le sait, il le sait. Et il en tient compte. Voilà, c'est bien de le savoir. Parce que beaucoup restent en arrière en se disant, je suis la plus mauvaise des personnes. Je suis ceci, je suis. Mais oui, mais Dieu sait que on est faible. Il le sait. Il ne demande qu'à nous pardonner et à nous lancer dans une voie de vérité. Quand on veut la voix de vérité, n'hésitons pas. Revenons au Seigneur. N'écoutons pas la voix du diable qui accuse. C'est l'accusateur des frères. Pour qu'on n'ait pas le courage de venir demander pardon. Il accuse. N'écoutons pas ça. Regardons à ce qu'on va lire au verset 16. Non, verset 17.
Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants.
Voilà. La bonté du Seigneur dure à jamais. Quand tu reconnais qu'il existe, quand tu es dérangé par le péché, pourquoi ceux qui le craignent? Ceux qui le craignent, ce sont les gens qui sont dérangés par le péché, qui sentent bien qu'ils ont enfreint une loi. La loi de qui? Du Créateur, de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et donc c'est une forme de respect de Dieu que de réaliser que ça ne va pas, j'ai fait une faute. Il dit, mais de telles personnes auront toujours le bénéfice de la bonté de Dieu quand ils vont la réclamer. Voilà, il faut que personne ne nous éloigne de la miséricorde de Dieu. Verset 18.
Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel.
Amen, amen. Mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes parfois comme deux, hein. On est un humain, mais parfois on est comme deux. Il y a un qui est sérieux, et il y a l'autre qui est charnel. On est comme ça, c'est pourquoi le sérieux, l'esprit, dit à l'âme qui est attachée à la chair, qui est attachée au corps, bénis l'Éternel. Arrête de te plaindre, bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. C'est comme s'il donne un ordre à son âme. Bénis Dieu. Dieu ne se trompe pas. Et dans cette duplicité-là, on peut subir aussi l'autre côté où on a l'impression que il faut faire le mal. Il faut pécher. Je pense que c'est la pensée du jour de demain, je crois. Voilà. Non, il faut que le côté sérieux dise au côté qui veut pécher là, refuse, rebelle-toi face au mal. Voilà. Il faut que le côté en, qui est en toi, l'intérieur, le fond, qui veut la vérité, dise ah non, je ne veux pas céder au côté qui veut à tout prix s'enivrer. Voilà, je ne veux pas céder. Moi, j'entraîne tout l'être dans autre chose. Voilà. Il y a une guerre, c'est ce qui est écrit dans Galates 5:16. Il y a une guerre entre l'esprit et la chair, afin que vous ne passiez pas ce que vous vouliez faire. Voilà, il y a une guerre. Et à un moment donné, l'esprit doit dire non. Non à l'esclavage du mal. Il dit à son corps, non, ça suffit. Ça suffit. Voilà. À un moment donné, même pas à un moment donné, à chaque fois, nous devons remporter cette victoire-là pour dire non. Et de l'autre côté, on doit remporter la victoire pour dire à l'âme, bénis l'Éternel, loue Dieu, pendant que ton corps a faim, et tu n'as rien dans tes poches, tu marches dans la rue, tu vois les gens faire la queue devant les sandwicheries, tu dis, mon ventre bénit l'Éternel. Voilà. Car il a de bons projets pour toi. Mon corps bénit l'Éternel. Il sait ce qu'il fait. Parce que tu sens que ton corps est en train de te pousser à la rébellion. Et non, que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 104. Louange au Dieu créateur. Voilà.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif.
Voilà, donc dans cette première partie, on exprime tous les exploits de Dieu en tant que créateur des choses. D'abord, liées à lui-même autour de lui, notamment la lumière et les anges. Parce que le verset 4, il dit, « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Ce verset-là est utilisé dans Hébreux par le frère Paul pour dire que, au Hébreux chapitre 1er, pour dire qu'il s'agissait des anges. Là, quand Dieu s'est écrit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il dit qu'il parlait des anges. Donc, il y a souvent correspondance entre certaines créatures de l'univers et les créatures spirituelles. Et là, on nous décrit d'abord l'univers, comment Dieu a fait les choses et sur la terre, et on inclut les anges. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, dont le Seigneur a empêché les eaux de submerger les montagnes. Ce sont des réalités. Voilà. Et aujourd'hui, il est connu que l'eau qui est en dessous, donc l'eau qu'on ne peut pas voir, qui est en dessous de la terre, je crois que c'est beaucoup plus, la quantité est beaucoup plus grande que l'eau qu'il y a sur la terre, qu'on peut voir. Vous imaginez, si Dieu ouvrait cette eau-là qui est cachée, c'est que ça va être, donc il y aura une inondation qui dépassera les montagnes. Voilà, c'est Dieu qui a dit, arrêtez-vous là, ça s'arrête là. On ne submerge pas. Et d'ailleurs, à l'époque du déluge, il est écrit que non seulement il pleuvait, mais Dieu avait ouvert ces eaux-là. C'est ce qui avait fait monter. C'est les eaux aussi souterraines qui avaient fait monter l'eau, la quantité d'eau sur terre. Donc, on montre la grandeur de Dieu dans la création. C'est pour dire, mais si quelqu'un ne peut pas voir ça, n'est-il pas fou quelque part ? Verset 8, des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. On nous dit que c'est le Seigneur qui a modelé tout ça. C'est lui qui a modelé tout ça. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. On nous le dit, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Donc on nous montre d'abord la création sans âme, comme les montagnes, l'eau, la lumière, et ensuite on nous fait passer à la création avec une certaine vie, des êtres vivants. Voilà, la création inanimée dans le sens de n'avoir pas de la respiration, et cette fois-ci on passe à la création animée, à partir du verset 12.
Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord. Ils font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel.
Amen, 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 amen. Voilà, en gros, il est en train de dire que tout est piloté par Dieu, la nourriture des animaux, la vie des animaux, tout ça, ça vient de Dieu. Il renouvelle la face de la terre, le climat, tout ça, ça vient de Dieu. D'ailleurs, bien-aimés, si vous entendez toutes les coïncidences, entre guillemets, qui font que nous puissions vivre sur terre, il y en a trop, au point que, voilà, la probabilité que tout ça vienne du hasard, c'est vraiment zéro, quoi. C'est quelqu'un qui a créé la terre pour mettre la vie dedans. C'est extraordinaire. Il renouvelle tout ça par les courants marins, par les vents, tout ça qui tourne autour de la terre, les saisons, tout ça, ça renouvelle la terre. C'est des choses que Dieu a faites et un vrai observateur humble ne peut que reconnaître la grandeur de Dieu. Oui, il y a des choses choquantes sur terre, comme les guerres, les cambriolages. Là, j'ai vu sur Telegram, je crois que ça doit être en Afrique du Sud, où la technique, c'est maintenant quelqu'un qui marche, il y a quelqu'un qui lui fait une clé au cou, et puis les autres le dépouillent dans les poches. Voilà, on a envie de sortir une arme et de tirer sur ces gens-là. Ce sont des choses qui avilissent la terre. Mais ça ne doit pas nous cacher aussi tout ce que Dieu a fait de beau sur terre et de grand. Il faut qu'il y ait un équilibre dans notre jugement. Oui, ce sont des choses qui avilissent la terre. Voir parfois, vous savez, dans des documentaires animaliers, quand on voit un fauve tuer une pauvre antilope, ça énerve aussi. Voilà, mais le problème, c'est que si tu ne tues pas l'antilope, lui aussi va mourir de faim. Ça va aussi t'attrister. Est-ce que tu as déjà vu un lion en train de mourir? C'est attristant aussi. Vous voyez bien que il n'y a pas, en quelque sorte, il n'y a pas de solution. Il y a des choses qu'on peut vivre qui nous attristent ou qui nous énervent. Mais comprenons que tout ça est dû au fait que le péché est entré dans le monde. Et que, en réalité, ce que Dieu a voulu, c'est ce qu'on voit là. En beauté, mais en beauté déjà diminué, mais c'est le monde que Dieu aurait voulu, un monde où on ne mange pas les autres animaux, certains animaux par d'autres. C'est le monde de Dieu, le monde au paradis, il n'y aura pas tout ça. Tout ça vient du péché. quand Adam et Ève ont été créés, on ne mangeait pas les animaux. Tout ça vient du péché. Que tout ça nous pousse à combattre le mal, à combattre le péché, à prêcher l'évangile, au lieu de nous faire entrer dans une sorte de colère contre Dieu, mais comment il laisse cette pauvre antilope? Voilà, un ours blanc va manger un phoque, mais comment tu peux? Mais oui, mais ça, c'est la terre. Comment il permet que ces voleurs-là tuent des pauvres passants? Mais c'est la terre. C'est dû au péché. Que ça soit pour nous un stimulant pour la prière, pour vivre la gloire de Dieu, qui va compenser ces visions-là négatives, plutôt que sombrer dans une tristesse qui nous empêche de servir Dieu. Voilà. Lui, il va loin, il dit, j'ai compris. En quelque sorte, quand je le résume, il veut dire, j'ai compris. C'est pourquoi je chanterai, verset 33 maintenant, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Parce que j'ai compris que finalement, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et je réalise la grandeur aussi des choses qu'il a faites. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je ne veux plus murmurer face à lui. Je ne veux plus contester avec lui. Vous savez, quand dans le psaume 103, on lit de Dieu que lui ne conteste pas, ça fait mal de voir combien de fois nous on conteste. On lit de lui qui ne conteste pas toujours. Il va te contester pendant un temps, après il va prendre une voie de sortir pour toi. Mais nous, nous contestons régulièrement avec Dieu. Mais lui, il a compris, l'écrivain du psaume, il a dit, c'est fini. Moi, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Voilà, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. C'est ce qui est écrit au verset 31. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. On va chanter cela pour clôturer, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse.